Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors nous allons cette semaine eh bien, voir le livre d'Hélène Duc. Je précise qu'Hélène Duc, c'est son véritable nom. Sauf que Hélène, je crois que c'est Marcel, mais Hélène Duc, qui a écrit un livre qui s'intitule « Entre cour et jardin », et ce sont des mémoires, et c'est édité aux éditions Pascal Biographie en 2005. Alors, bien sûr, on se rappelle, pour les plus anciens comme moi, de Marot d'Artois dans l'adaptation télévisée des Rois maudits, d'après l'œuvre de Maurice Druon, puis Claude Barma, 1972, feuilleton rediffusé actuellement sur LCP, Public Sénat. Je crois que c'est la fin d'ailleurs, le dernier. Les plus jeunes se souviendront peut-être d'elle dans le rôle de la grand-mère de Tanguy, film d'Étienne Châtillier en 2001. Alors, une nouvelle réalisation des Rois maudits a eu lieu, en 2005 avec Hélène Duc, mais dans un rôle différent. Alors, Hélène Duc, ben, c'est une compatriote, évidemment. Hein. Hélène Duc, née à Bergerac en 1917 dans une famille protestante, son goût des belles lettres l'amène très naturellement à une carrière de professeur de français. Ainsi, lorsque la guerre éclate en 1939, elle enseigne au collège Jules Ferry de Bergerac, tout en dirigeant une troupe de théâtre. Parmi ses élèves, une certaine Juliette Gréco, venue se réfugier avec sa mère et sa sœur en Périgord. Alors, en 1940, Hélène Duc quitte le professorat et se consacre au théâtre. Alors, elle à Paris, elle va aller à Paris, évidemment, et elle va recueillir Juliette Gréco. Alors, elle dira plus tard ce qu'elle a fait pour Juliette Gréco, Hélène Duc, mais aussi sa mère, l'ont fait pour de nombreuses familles juives de Paris et de Bergerac en 2005, alors qu'elle est reconnue juste parmi les nations et que la presse interroge sur sa bravoure. Elle dira « Je ne me sens pas héroïne, ce que je l'ai fait est normal ». C'était la moindre des choses, c'était le fruit de mon éducation, et je dois dire qu'elle s'éteindra en 2014. Voilà ce qu'on peut dire sur sa vie en général. Alors je vais reprendre évidemment la lecture de « Entre cour et jardin », livre de ses mémoires. Alors, sa mère, elle a une sœur, comment je pourrais dire, beaucoup plus âgée qu'elle, je crois d'une dizaine d'années ou une douzaine d'années, et sa mère qui n'a pas de lait, et bon, ben, son père s'en fut à la maternité de Bordeaux chercher une nourrice qui ramena Nounou. Alors Nounou, c'est un personnage mythique entre Euripide et Shakespeare, prit donc ma vie en main, un père mort. Alors son père décédera à la fin de la guerre 14-18, il était médecin, et une bombe aura lieu de raison de sa vie. Alors un père mort, une mère lasse qui n'avait pas la force occupée d'un bébé, puis d'une enfance débordante de vie. Nounou avait sur moi le poids absolu que donne l'amour sans borne. Alors, je dois dire quand même que Hélène Duc, elle est née quand même dans une famille aisée. C'est une famille de viticulteurs, viticulteurs sur Bergerac, bien entendu. Alors, ils avaient quand même les moyens d'entretenir ou de payer une nounou et même une cuisinière. Voilà. Alors, respire, alors elle lui dit respire à fond, ne pleure pas, mange lentement, mâche bien, ne cours pas si vite, fais tes devoirs, couvre-toi, elle n'arrêtait pas de me chapitrer, mets tes escalous, les escalous, ben ce sont des sabots de bois. Petite, il pleut, va te laver les mains, ne cours pas si vite, allez au lit, dépêche-toi, on irait la mort de Turenne. Alors, la mort de Turenne, c'est parce que la nounou était née près du château de Turenne, et qu'en réalité, il est mort à Schlesbach le 26 juillet 1575, et que Louis XIV décida de le faire enterrer, enfin, ou qu'il reposerait dans la chapelle des Bourbons. Alors, le cortège funèbre mettra quand même plusieurs années, et puis à réaliser cette volonté. Et en fait, sur ordre de Napoléon, on le transféra aux Invalides, dont il ne bougea plus. Donc voilà la mort de Turenne. Alors voilà comment la mémoire du terrain, nounou, était née. Alors comme je disais, près des restes du château des vicomtes de Turenne, confondant la mort et la longueur des funérailles, avait transmis à travers les siècles le souvenir d'un grand événement populaire. Alors, Nounou ne redoutait rien ni personne, elle avait son franc-parler, n'était pas traitée de putain, en patois, quand un garçon s'approchait trop près. Elle grommelait dans un sabir mi-patois, mi-français, avec un roulement des airs qui devenait selon les circonstances, roucoulement de colombe ou rugissement de volcan. Neitolo, quel hôpite, quand une pute. Alors, traduit en patois du sarladé, ça veut dire, regarde cette petite, c'est une pute. Voilà. Alors, c'était à ce moment-là que je la voyais surgir, rouge couleur, menaçante, attraper le jeune soupirant, apeuré d'une main ferme et jeté dehors. Elle avait fort à faire, car j'aimais bien les garçons, et surtout, je m'étais entiché d'un habitant régulier de notre grande maison. Il s'appelait Abel, comme mon grand-père, ce nom bien protestant, et il me semblait austère, je l'avais donc surnommé Bobby. Alors, Bobby viendra deux fois par an, parce qu'il cherchait une compagne. Alors, Bobby m'a mené, en dehors des jeunes femmes qu'il préfréquentait, m'a mené aux réunions du Parti Socialiste. Lotti, me disait-il, tu ne dois jamais abandonner la SFIO. Alors, la SFIO, c'est la section française de l'Internationale ouvrière. Voilà, SFIO. Alors, c'est le Parti Socialiste, en quelque sorte, actuel. Et j'essaie de tenir ma promesse, bien que les réunions politiques où il m'a mené me transportaient dans un univers d'hommes dont j'étais privé, quand l'orateur s'écriait « La religion, c'est l'opium du peuple », prononcé « opion », Et oui, ça c'est le parler régional. Je trépignais de joie à l'ahurissement de mes voisins et à la grande fierté de Bobby. Voilà. Alors, pour en revenir à Nounou, on va passer quelques chapitres qui, tout en me surveillant de près, étaient parfois aussi ma complice et elle fera venir un jeune bohémien. Voilà. Alors, Nounou passa 47 ans de sa vie à la maison que je ne pouvais donc pas vendre. Elle m'avait prévenu, « Petite, si tu vends, je me pendrai dans le grenier. » Alors, l'existence de sa mort reste un des grands mystères de son existence. Elle sera prévenue, donc, Hélène Duc, à 4 heures du matin, parce que la standardiste avait trouvé un papier. Voilà. Et à 4 heures du matin, elle a quand même appelé pour lui dire que Nounou venait de disparaître. Alors, pour en revenir à Bergerac, voilà ce qu'elle nous dit. Je vivais dans la cuisine où je fis mes devoirs jusqu'en sixième, dans la bonne odeur des mets d'autrefois entre Nounou, sa fille et la cuisinière. Parmi les aides tutélaires qui firent de moi une enfant heureuse, Marie la cuisinière est aussi en bonne place. Elle a largement participé à mon bien-être et à ma santé. Personne ne savait d'où elle venait exactement. Pensez qu'à la naissance de ma mère, mon grand-père l'avait eu par relation. Les agences de domestiques n'existaient pas. On engageait de visu, car beaucoup de ces jeunes paysans qui cherchaient à se placer, originaires de petits villages, ne parlaient pas le français. Marie ne faisait pas exception à la règle, elle était donc arrivée en 1884, et je crois bien qu'elle ne repassa plus la porte, sauf pour faire le marché, où elle jugeait d'ailleurs, dans mon enfance, que les temps changeaient dangereusement, car on ne lui donnait plus le sou du franc, c'est-à-dire une petite pièce à récompense de la fidélité au fournisseur. Voilà, alors, c'est intéressant cette première partie de ce livre, donc, entre cour et jardin, parce que c'est un peu la vie de cette époque, donc, entre les deux guerres. Alors, elle, donc, Marie qui n'était plus à la maison, c'était la stricte vérité, elle a même refusé de venir avec nous en villégiature d'été à Royan. Et en 1934, elle reçut pour les 50 ans de maison la médaille du travail et de la prévoyance sociale. Que diable était-ce donc que ce ministère? Voilà. Donc on va continuer un peu. Elle était l'âme du foyer, assise devant la cheminée ou une marmite, accrochée à la crémaillère, maintenait toujours de l'eau chaude. Elle pelait les légumes ou tricotait des fichus quand elle n'était pas en train de préparer une de ses fameuses recettes périgourdines. Elle avait sur ses genoux un ou deux chatons. Plus tard, elle adoptait un chien, Ali, que j'appelais Ali Baba au chocolat. Voilà, alors, comme on l'a dit, Marie ne parlait pas le français, ne parlait pas du tout. Elle connaissait très bien le langage gastronomique. Et j'ai toujours un lambeau, quelque part, son livre de cuisine illustré de truffes, de cèpes, de foie gras, de clafoutis, de cruchades, de vin de noix, de pruneaux en compote de Mia, c'est-à-dire un gâteau de maïs qui est très bon, un peu dur, mais très bon. Et puis elle avait aussi sa spécialité, les jours de tourtière. Alors, la tourtière, on en parlera certainement de ces jours. Alors, il y avait à 4 heures pour mon goûter, Marie me donnait, malgré les protestations de ma sœur, qui commençait à faire la jolie, un quignon de pain frotté d'ail et graissé d'un peu d'huile de noix. Alors ça, j'ai connu, une petite parenthèse, c'est ce que j'ai connu aussi. On prenait une tranche de pain un peu épaisse, on frottait de l'ail sur la croûte et on n'avait peut-être pas beaucoup d'huile de noix, mais on mettait un peu de graisse sur la mie du pain et c'était très bon. Voilà. Alors, donc c'était curieux de voir les prérogatives que Marie Nounou s'était attribuées. À ma naissance, Marie était à ma sœur Marcel Nounou, qui s'appelait aussi Marie, ne s'occupait que de moi. Nounou parlait un bon français et un patois du Limousin avec Marie, ce qui me donna l'avantage de comprendre l'un et l'autre. S'aimait-elle, je ne sais pas, mais nous, elle nous aimait. Si dans leur conversation, on percevait parfois quelques mots de patois plus vifs, c'est que Nounou s'était permis d'enlever son verre de vin à Marie, et il y en avait assez de tonneaux dans la cave, mais c'était des viticulteurs dont Marie avait les clés pour que personne ne trouve à redire si elle buvait sa bordelaise par jour. Alors une bordelaise, c'est à peu près un trois quarts de vin. Bon, voilà. Alors, on va continuer un tout petit peu. On va continuer un tout petit peu. Mes jours étaient donc à Nounou, à la cuisine et à l'office, mais la nuit, j'appartenais à ma mère. Après la prière du soir, elle prenait sa place auprès du poêle de bois, sous une lumière douce qui auréolait son visage si triste, et commençait à me dire des vers. Parfois, c'était si beau que j'avais envie de pleurer. Je transportais les vers en images. C'était la Samaritaine de Canaan, de Malibran, la nébuleuse voie lactée, la jeune fille qui sentait la bruyère et le thym, la Loreley, l'étrangère vêtue de noir, le prince d'Aquitaine, et dans la tiédeur de la chambre percée par le bruit feutré des bûches qui se consumait, je m'endormais sûr que le monde m'appartenait et que j'appartenais au monde. Voilà. Alors, on va continuer un tout petit peu. Vous voyez, il y a un autre chapitre qui s'appelle Voyage. J'aimais bien trop ma maison pour être fugueuse. Mais dans nos promenades, je trouvais que Nounou n'allait pas assez loin. J'étais avide d'aventure et de départ. Un jour, je mis quelques biscuits dans ma poche et sans refermer la haute porte d'entrée, je pris le chemin de la gare. Mais à 50 mètres, sur les marches de la poste, Patissou veillait. C'était un doux clochard à l'œil bleu, à la barbe majestueuse, auquel la légende attribuait une double origine. Je parlais souvent avec le chien du café Tortoni, il gardait les vélos contre le mur de la poste, rendait le menu service qui lui procurait de quoi acheter son vin. Il mourut dans 30 cm d'eau un soir où, plus sous que d'ordinaire, il était tombé le nez dans une rigole. J'avais à peine tourné donc en direction de la gare le jour de la fugue, que Patissou faisait le prodigieux effort de se lever, sonner vigoureusement chez moi et prévenait Nounou, en me grondant sévèrement parce qu'on avait eu peur et il n'y eut pas de récidive. Les marches de la poste étaient plein sud et étaient caniculaires. Patissou, toujours chaudement vêtu, semblait particulièrement euphorique. Voilà. Alors, on va continuer un tout petit peu. Alors, il chantait, bien sûr, il parlait, c'était un bariton, il chantait, et puis il se disputait un peu avec la personne qui tenait le cinéma. Alors, on m'amenait quelquefois au cinéma, dira Hélène Duc, pour voir des films instructifs, Premier souvenir, Nanouk, Eskimo, de Robert Flaherty, puis plus tard, La lumière bleue, de Leni Riefenstahl, et Tabou, de Murnau et Flaherty. Vous voyez, protestants, on faisait des projections commentées sur l'œuvre des missionnaires en Afrique, la découverte des sources du Nil, les chutes du Zambèze et l'intrépide Livingstone. Je connais pas l'Afrique noire, mais aux images splendides des films contemporains, j'ajoute en surimpression les images immobiles et ternes de mon enfance sur lesquelles je mets des belles couleurs de l'imagination et du souvenir. Voilà, je vais arrêter là. Et puis, je me souviens quand j'étais à l'école primaire, eh bien, on nous amenait également voir des films instructifs sur Jeanne d'Arc, etc. Voilà, mais je crois que mon quart d'heure tire à sa fin. Je vais vous souhaiter une bonne semaine, mais je crois qu'il va faire un peu frais quand même. Voilà, et donc, à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.